Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Et à la une, un produit de fête qui fait débat, le foie gras, en cause notamment le gavage des canards et des oies. Alors pour plus de bien-être animal, un député de la majorité veut autoriser des foie gras sans gavage mécanique. On va vous expliquer ce que sa proposition de loi pourrait changer. Un jeune sur 30 testé positif au Covid à Paris, l'un des chiffres marquants de cette vague épidémique inédite par son ampleur. Quelle riposte face à Omicron ? Conseil de défense sanitaire cet après-midi, suivi d'un conseil des ministres. Il sera question du pass vaccinal. Les professionnels s'inquiètent, vous l'entendrez, pour la fréquentation des restaurants. Au sommaire aussi, 24 heures d'hommage à Desmond Tutu en Afrique du Sud. Et notre série de fin d'année sur les sportifs de 2021, une judokate à l'honneur ce matin.
Dans 20 minutes, nous recevrons aujourd'hui Marine Barnérias, atteinte de sclérose en plaques. Cette jeune femme a parcouru le monde pour mieux se connaître avant d'affronter la maladie. Elle raconte ce voyage initiatique dans son film documentaire Rosie et nous en parlerons à 7h50.
France Inter. C'était la star sur certaines tables à Noël et ce le sera encore pour le réveillon du 31. Le foie gras, un classique des repas de fête, aux grandes dames des associations de protection animale qui dénoncent régulièrement le gavage forcé des canards et des oies. Eh bien, un député LREM propose un compromis. Loïc Dambreval vient de déposer une proposition de loi pour élargir l'appellation foie gras aux volailles qui ne sont pas gavées mécaniquement, celles qui s'engraissent naturellement de leur plein gré. Aujourd'hui, le code rural interdit aux éleveurs qui font ce choix de nommer leurs produits foie gras. Ce parlementaire souhaite aussi que soit apposée la mention avec ou sans gavage sur les bocaux. Et cela fait évidemment réagir dans les régions concernées, comme le Périgord, Emmanuel Clavry.
Loïc Dambreval se défend d'être contre le foie gras en tant que tel. Avec cette proposition de loi, le député La République En Marche des Alpes-Maritimes souhaite mettre fin à ce qu'il considère comme une distorsion de concurrence.
Moi, j'ai rien contre ceux qui mangent du foie gras. Je veux dire, chacun se mange ce qu'il veut. J'ai jamais été dans cette logique-là, quoi qu'en disent certains. Simplement, quand on voit que on peut obtenir un foie gras sans gaver des animaux, mais que cela qui pratiquent ainsi ne peuvent pas s'appeler foie gras, ça me semble extrêmement surprenant. Et c'est ça que je veux changer.
Producteur de foie gras de canard depuis 45 ans à la ferme de Bjorn, à Lunas, dans le Bergeracois, Noël Artaud est contre. Pour lui, le foie gras s'obtient par gavage et pas autrement.
Il faut que l'animal soit gavé matin et soir, à raison d'une certaine quantité d'aliments tous les jours, pour qu'il puisse établir en fin de compte une transformation de son foie en réserve. Sinon, c'est pas du foie gras. Non, ça peut pas être du foie gras. Si, depuis le temps que nous, on gave des animaux en Dordogne, dans le sud-ouest en règle générale, et dans l'est en Alsace, si on avait pu avoir des foie gras sans gavage, eh bien, l'industrie aurait, ça l'aurait intéressé.
Loïc Dombreval a bon espoir de voir sa proposition de loi aboutir. Pas sûr qu'il puisse compter sur le soutien des députés du sud-ouest, y compris d'ailleurs ceux de son propre camp.
Emmanuel Clavry, France Bleu, Périgord, 24 millions de canards sont gavés chaque année dans notre pays pour leur foie gras. Il était rentré en France pour les fêtes. Il est ce matin en détention provisoire. Un entrepreneur franco-syrien arrêté et mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Il est soupçonné d'avoir fourni du matériel à l'armée syrienne malgré l'embargo international et notamment des composants pouvant servir à fabriquer des armes chimiques.
Le gouvernement veut réévaluer la situation face à l'explosion d'Omicron.
Réévaluer, oui, c'est le terme utilisé par l'exécutif. Que cache-t-il ce mot ? Peut-être de nouvelles restrictions ? On le saura à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire à 16h cet après-midi. En jeu, le réveillon du 31, mais plus largement aussi la rentrée de janvier, à l'école, en entreprise, alors que les contaminations flambent comme jamais. Taux d'incidence nationale de 700 cas pour 100 000 habitants. C'est une première, Hélène Chevalier.
Et à n'en pas douter, Omicron fait exploser les contaminations. Pour le moment, c'est surtout chez les 20-29 ans que la courbe est impressionnante, proche de la verticale à Paris, où un jeune sur 30 a été testé positif cette dernière semaine. L'incidence sur cette tranche d'âge au niveau national est la plus élevée, au-dessus de 1200. La question est maintenant de savoir si les plus de 65 ans seront impactés. Pour le moment, l'augmentation des cas reste modérée, mais la promiscuité des repas de Noël en famille pourrait se faire ressentir dès le milieu de cette semaine. Quant aux hospitalisations, 3300 personnes covidées étaient en réanimation hier. Si l'on est loin des pics des trois premières vagues, l'absentéisme des soignants cas contact ou infectés pourrait être un problème. Dernier point, les enfants. Certes, avec les vacances scolaires, l'incidence des 6-10 ans qui battait des records début décembre est un peu redescendue. Mais pour combien de temps ? Certains épidémiologistes et professionnels de santé demandent que la rentrée soit reportée.
Flambée des contaminations et des cas contacts. Alors pour éviter la paralysie de certains secteurs, le gouvernement devrait assouplir ce soir les règles d'isolement. Le Conseil de défense à peine terminé, un Conseil des ministres exceptionnel démarrera dans la foulée en fin d'après-midi avec un texte au menu, le projet de loi remplaçant le pass sanitaire par un pass vaccinal dans certains lieux. Entrée en vigueur prévue dès le 15 janvier. Concrètement, un test négatif ne suffira plus. Il faudra être vacciné pour monter dans un TGV, entrer dans un bar ou un restaurant. Avec quel impact pour ces établissements ? Marion Ferrer a posé la question au gérant.
Dans les cuisines du Lutetia, une brasserie du 15e arrondissement de la capitale, serveurs et cuistots se relaient. Ils sont une quinzaine au total. Et pour la gérante Amina, le pass vaccinal est une formalité.
On est tous vaccinés. J'ai 80% de l'équipe qui est déjà en troisième dose. Le reste, ils ont soit leur rendez-vous, soit ils font prendre leur rendez-vous par la suite. Donc après, de toute façon, on n'a pas envie de perdre notre emploi non plus. Donc au sein de l'équipe, ça ne changera pas grand-chose pour nous.
C'est moins sûr, en revanche, du côté des clients. Amina estime que 10% d'entre eux valident actuellement leur passe sanitaire avec des tests. Des clients que Stan, gérant lui aussi, redoute de ne plus voir dans son café.
Donc on a perdu pas mal de chiffre d'affaires, moins la moitié. C'est un peu compliqué, ça peut rebuter certains. Imaginons, il y a une table de 5 personnes qui arrivent. Il y a une seule personne qui n'est pas vaccinée, qui n'a pas son pass. Ça veut dire tous les autres, ils s'en vont. Ça nous fait perdre d'argent.
Incertitude aussi pour Cheyenne, mais la patronne du restaurant Mazette préfère se passer de ses quelques consommateurs plutôt que de refermer à nouveau son établissement.
On a toujours peur, hein. Depuis 2 ans, on a toujours peur. Il y en a qui parlent de fermeture de soir ou bien limiter l'heure. Non, on vaut vraiment plus ça, parce qu'on a bien commencé depuis juin, on ne vaut pas que ça s'arrête.
Pour rappel, entre 2020 et 2021, les cafés et restaurants ont été fermés durant plus de 9 mois.
Le reportage de Marion Ferrer. Passe vaccinal, nouvelles restrictions et flambée des contaminations. Cocktail détonnant et inquiétant pour certains secteurs de l'économie. Dans l'aérien, par exemple, près de 8000 vols annulés ce week-end au niveau mondial. Fabien Cazot, le contexte de cette fin d'année vient assombrir les prévisions économiques pour 2022.
Pas un coup d'arrêt, mais un coup de frein tout de même. Depuis l'apparition du variant Omicron, la Banque de France a déjà revu légèrement à la baisse sa prévision de croissance pour 2022 à 3,6%. La Banque Centrale Européenne parle de son côté d'incertitudes exceptionnellement élevées. Toute la question, c'est de savoir si les piliers de l'économie tiendront. D'une part, l'investissement des entreprises, qui dépend toujours du niveau de confiance dans les perspectives macroéconomiques. D'autre part, la consommation, qui serait affectée en cas de sévère tour de vis sanitaire, de fermeture de magasins ou de restrictions dans les transports. Pas de quoi faire dérailler la reprise à ce stade, estiment les conjoncturistes, qui anticipent déjà un fort rebond après un ralentissement passager lié à Omicron. La consommation ne demandera qu'à repartir, veut croire la BCE, l'épargne étant au plus haut en France et en Europe. Les entreprises, de leur côté, pourront compter sur le soutien des États si la situation devait nécessiter de nouvelles mesures d'aide.
Fabien Cazot.
Les diplomates européens ne veulent plus perdre de temps.
Pas de trêve des confiseurs pour les négociations sur le nucléaire iranien. Elles reprennent aujourd'hui à Vienne après leur interruption il y a 2 semaines. L'enjeu, c'est de sauver l'accord dénoncé par les États-Unis de Trump en 2018, mais ça ne redémarre pas sous les meilleurs auspices. Téhéran fustigeant le comportement des Européens qui, je cite, ne ferait pas preuve d'une attitude très constructive selon les Iraniens. En Afrique du Sud, le dernier hommage à Desmond Tutu est prévu le 1er janvier. Les obsèques de l'archevêque, dernière grande figure de la lutte contre l'apartheid, se dérouleront samedi dans son église, la cathédrale Saint-Georges du Cap. C'est d'ailleurs là que les habitants de la ville se rendent spontanément depuis l'annonce hier de la mort du prix Nobel de la paix à 90 ans. Au Cap, comme partout dans le pays, ils sont nombreux à se recueillir ces dernières heures. C'est le reportage de Claire Bargelès.
La communauté religieuse du pays pleure alors la disparition de celui qui fut le premier archevêque anglican noir du Cap. Jackie fréquente la même église où se rendait Desmond Tutu lorsqu'il était à Soweto.
Malgré son âge avancé, il a continué à promouvoir la réconciliation plus que tout pour qu'on se pardonne entre nous pour le passé et qu'on reconstruise cette nation.
Mais sa stature et son charisme rayonnaient bien au-delà de la communauté chrétienne et dépassaient le cadre de l'Afrique du Sud. Samba est d'origine congolaise et il était impressionné par cette personnalité hors norme.
Il n'avait vraiment pas du tout froid aux yeux. Il disait ce qu'il pensait. C'est pas le style dans son petit coin qui a peur et tout et tout. Non, pas du tout. Il parlait. Il parlait tout haut.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également salué, dans une adresse à la nation, tous les combats menés par Desmond Tutu.
Il avait déclaré qu'il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il n'y a pas de justice. C'est un principe que l'on doit continuer à suivre alors que l'on pleure désormais son décès.
Selon sa fondation, The Arch, comme il était affectueusement surnommé, devrait être honoré au cours de plusieurs cérémonies organisées jusqu'à ses funérailles prévues le 1er janvier. À Johannesburg, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
À moins de 3 ans des Jeux Olympiques de Paris, coup de projecteur sur les personnalités qui ont fait 2021 dans le sport.
Et chaque jour, pendant ces fêtes, un sportif à l'honneur sur Inter. Et on ne pouvait pas ne pas vous parler des judokas.
Mais
après
oui.
Leur belle moisson aux Jeux de Tokyo. Parmi eux, Madeleine Malonga, médaillée d'argent en moins de 78 kilos cet été. Et depuis, assez paradoxalement, Jérôme Val, ses performances olympiques n'ont pas réglé tous ses soucis financiers.
Madeleine Malonga fêtait ses 28 ans avant-hier, le jour de Noël, avec le souvenir toujours très précis de ce 29 juillet au Budokan de Tokyo, l'or qui lui échappe, mais une médaille malgré tout.
C'est incroyable en vrai, c'est des années de travail. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 13 ans, pour venir faire du sport. Et je connais des personnes qui ont fait tout ce chemin et qui ont eu ces médailles, donc juste pour ça, je dois être fière et sourire.
Sourire, mais avec un petit goût amer. Aujourd'hui, l'effet JO ne s'est pas fait sentir à tous les niveaux.
Par exemple, moi je suis dans une difficulté où je n'ai pas de sponsor équipement pour pouvoir m'aider à accéder dans la performance. Donc c'est une des seules choses qui m'embête que j'aurais peut-être aimé avoir avec cette médaille olympique.
Et c'est tout le paradoxe. Madeleine Malonga a presque tout gagné dans son sport. Championne du monde, double championne d'Europe, vice-championne olympique. Un statut qui ne suffit pas à attirer les marques.
Je comprends pas. Peut-être que je les intéresse pas. Je sais pas s'il faut des résultats. Quels sont les critères du coup pour avoir un équipementier? Parce que j'ai quand même pas mal de critères résultats cochés. Donc aujourd'hui, j'ai des résultats. Je me rends compte que non, on n'a pas tous les sponsors. Ça me laisse interrogatif.
Surtout à 2 ans et demi des Jeux de Paris 2024, mais Madeleine Malonga est du genre fonceuse. Sa priorité, ramener l'or qui lui manque tant.
Enfin, quand un super-héros fait un peu oublier le super-virus malgré Omicron, un film vient de dépasser le milliard de dollars au box-office. C'est une première depuis 2015 et ce film, c'est le nouveau Spider-Man avec le britannique Tom Holland. Très belle performance quand on sait que les salles de cinéma sont un peu désertées ces derniers mois dans de nombreux pays.
Et merci au super Alexis Morel, l'édito politique à suivre.